Where's north from here?
C'est pas ça du tout.
Un bon club sandwich.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre Info Club Sandwich. Nous sommes le mardi 13 janvier et je suis ravie de vous l'annoncer, c'est la journée sans pantalon. Et l'avantage de la radio, c'est que l'on s'habille comme on veut. Bon, pour être honnête, personne n'a joué le jeu, mais je vous ai quand même concocté une chronique autour de cet événement. Car oui, c'est un vrai événement. Mais je vous réserve ça pour la deuxième partie d'émission, car avant, nous recevons Jennifer Gouret, invitée de Sonia. Elles vont nous parler de l'exposition sur Annie Ernaux, visible à la BU de la Citadelle à Amiens.
Je suis avec Jennifer Gouret, bibliothécaire assistante spécialisée à l'Université de Picardie Jules Verne, pour parler de l'exposition itinérante Annie Ernaux, une lutte des places, et de comment on parle de lutte des places à travers une exposition. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous vous occupez des visites de l'exposition. Donc première question, est-ce que vous pouvez présenter l'exposition ?
Alors je vais commencer par présenter les personnes qui ont conçu cette exposition.
Oui.
Donc nous on a la chance à Amiens, à la BU Citadelle, de recevoir cette exposition parce que c'est un travail qui a été mené sur 2 ans entre les universités Arras, les universités de l'Artois, du Littoral et de l'UPJV. Et c'est une exposition qui a été conçue et produite par l'Art de Musée. C'est une association étudiante composée des étudiants d'Arras qui font partie du master donc expographie, muséographie. Et puis, ils ont travaillé avec l'agence de scénographie Scénorama. Alors, je voudrais juste mentionner les noms des personnes parce que je trouve ça important. Donc, c'est 5 femmes qui ont conçu l'exposition. Donc, il y a Ninog Blanchard-Cosquer, Selena Bouvard, Élise Klein et Gaëlle Magdalene, ainsi que Léa Sauvage. Elles ont été accompagnées par un professeur d'université qui s'appelle Isabelle Roussel-Gillet, qui est une amie d'Annie Ernaux par ailleurs. Et puis en conseil scientifique, on a Pierre-Louis Faure, qui est professeur des universités à Cergy-Pontoise, qui a permis aussi de faire une relecture des textes. Donc il y a beaucoup de personnes du coup qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et elles ont travaillé avec Annie Ernaux, qui les a accueillis chez elle à plusieurs reprises, sans pour autant qu'elle intervienne dans le contenu. En fait, elle a validé, elle a donné des archives personnelles, mais elle n'a pas, elle est restée discrète en fait quand même sur la conception. Voilà. Aussi, cette exposition, c'est la première fois que l'association de filière du master expographie muséographie propose une exposition qui est itinérante, et donc elle va voyager pendant 3 ans. Donc nous, on est le troisième lieu d'accueil. Elle a commencé à Arras, ensuite Cergy-Pontoise. Donc là, c'est nous jusqu'au 19 février. Et ensuite, pendant 3 ans, elle va circuler dans toute la France, dans des établissements culturels ou éducatifs. Du coup, voilà.
C'est quoi une lutte des places ? Parce que ça fait un peu penser à la lutte des classes. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ?
Alors, absolument. Elle s'appelle une lutte des places, effectivement. C'est représentatif de tout le travail d'Annie Ernaux dans son écriture, dans sa vie, en fait. On pourra en reparler après. Au départ, on savait pas comment on allait vraiment l'appeler. Est-ce qu'on allait l'appeler être à sa place? Et finalement, c'est Annie Ernaux, virgule, une lutte des places. Puisque, en fait, Annie Ernaux, elle est née dans une famille ouvrière. Ses parents sont devenus tenants de café. Et puis elle a grandi, elle a passé son CAPES de lettres et elle a épousé un homme issu de la bourgeoisie. Et donc du coup, elle s'est toujours retrouvée entre deux classes, sans vouloir renier ses origines et sans non plus forcément trouver sa place dans l'une ou dans l'autre des classes sociales, en fait.
D'accord. Et pourquoi ce choix d'exposer cette exposition dans une bibliothèque universitaire ?
Alors, elle se positionne, cette exposition, dans un cycle sur le féminisme qu'on a mis en place à la Citadelle, qui a commencé en septembre. On avait commencé par une exposition qui s'appelait « Colère, non féminin », le nom c'est N-O-N, qui parlait donc de la position et le ressenti, le sentiment d'être femme, de ressentir des colères, pourquoi et comment les gérer, comment ne pas les gérer, ça dépend. Quoi en faire, en fait. Et puis, tout un parcours d'animation, d'atelier autour de la gestion des émotions, autour du portrait de la colère. En fait, on a voulu faire vraiment quelque chose d'axé sur le féminisme parce que c'est un ressenti qu'on a eu avec l'équipe d'un besoin nécessaire de parler de ces sujets-là à un moment où, là, dans la société, on a des baisses de budget pour pas mal d'associations qui vont en ce sens dans la protection des femmes ou dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on s'est dit, maintenant qu'on a la parole, autant qu'on la prenne parce que on ne sait pas combien de temps on pourra parler ouvertement de ces sujets-là. Et on voit aussi que, du coup, ça régresse parfois, en fait. Alors qu'on pourrait se dire, en 2026, c'est bon, nos droits sont acquis en tant que femme. Et en fait, c'est pas le cas, quoi. Il faut continuer à se battre pour les conserver. Et du coup, on s'est dit que c'était vraiment nécessaire. À notre niveau, on a la possibilité de donner la parole à des artistes et à des écrivaines. Autant le faire, en fait.
Donc, le but de départ, c'était de parler de tous ces sujets, féminisme, etc. Ou c'était de parler d'Annie Ernaux.
Alors, Annie Ernaux, elle a sa particularité d'être une autrice assez controversée, notamment pour ses prises de position, ses prises de parole en faveur des femmes et en faveur aussi des classes populaires. Dans l'exposition, on retrouve des extraits de discours qu'elle a eus, des discours... Il y a même une lettre adressée au président Macron, par exemple. On a aussi des lettres ouvertes, des articles. Donc on peut découvrir Annie Ernaux par ses textes, mais c'est pas des romans qu'elle écrit, en fait. Elle va écrire ce qu'elle auto-décrit comme des textes auto-sociobiographiques qui vont parler d'elle dans un premier temps parce que c'est son expérience qu'elle partage, mais ça se veut universel, en fait. Autant sur sa place en tant que classe, enfin dans son niveau social, mais aussi en tant que femme, en tant que mère, en fait à plein de niveaux différents. Du coup, Annie Ernaux, elle est intéressante sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan social, sur le plan historique, puisqu'elle a aussi écrit des textes, donc les années qui vont parler de sa vie, mais aussi en lien avec les faits historiques et socio-culturels de son époque. Et du coup, elle apporte énormément au niveau de la vision des choses et de l'évolution aussi des droits des femmes, entre autres, de l'évolution des droits ouvriers, par exemple. Enfin, voilà. Voilà. Et puis, c'est prix Nobel de littérature 2022. Donc, ça s'y prêtait bien.
Et justement, tout ça va se traduire à travers l'exposition. Il y a 5 modules. Donc, dans chacun des modules, qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir ? Par exemple, on va commencer par le premier. Le premier module, c'est Annie Ernaux, une lutte des places.
Oui, alors le premier module, c'est un module introductif. On va voir des portraits de personnalités qui seront mentionnées dans les autres modules. C'est vraiment du coup l'introduction. Donc une lutte des places, parce que toute sa vie, finalement, elle essaie de trouver où est sa place. Elle n'est ni dans l'une ni dans l'autre, elle est entre deux, en fait. Que ce soit au niveau social, comme je disais, mais aussi en tant que femme, en fait. Où est la place de la femme ? Est-ce que c'est la loi qui va définir la place de la femme ? Ou est-ce que c'est finalement aux femmes d'imposer leur place et de la définir ? Voilà. Ensuite, on a le deuxième module qui s'appelle « Un théâtre social ». Donc là, on axe vraiment sur le livre qui s'appelle « La place » qu'elle avait écrit. Et donc, dans ce module-là, on va avoir des chants, des textes. C'est tourné autour du langage, en fait. Le langage qui va montrer en quelque sorte à quelle classe sociale on appartient en fonction du niveau de vocabulaire, voilà, du registre de langue, en fait. Donc on a des extraits audio, on a des slogans. Cette expo, elle est très interactive, en fait. Sur chaque module, on va avoir de l'audio et du visuel. Donc parfois des extraits vidéo, parfois des lectures de textes, des lectures de courriers de lecteurs, par exemple. Voilà. Et puis on a aussi une interactivité au toucher. Ensuite, on a le transfuge de classe Vivre entre deux. Donc, c'est le troisième module. Donc là, le livre qui est mis en honneur, c'est Les armoires vides. Et donc là, on est vraiment sur la définition de ce que c'est une personne transfuge et aussi quels sont les ressentis de ces personnes, en fait, qui n'arrivent pas forcément à être à l'aise ou à bien le vivre, en fait. C'est quels sont les sentiments qui sont liés à tout ça. Et du coup, on a ce qu'on appelle le petit module les sentiments partagés avec d'autres artistes qui ont été qui sont transfuges, et voir la mise en lien avec Annie Ernaux, quoi.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi parle, parce que ce module-là est basé sur le roman Les Armoires Vides, qui est paru en 1974. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi parle ce roman ?
Les Armoires Vides, du coup, ça va parler du ressenti, vraiment, de sa transition entre son milieu social d'origine et puis le milieu dans lequel elle est accueillie en épousant son mari, en fait. Ce qu'elle ressent, ça va être un mélange de honte, très tôt, en fait, même au moment de ses études, et en même temps, beaucoup d'amour, quand même. Ouais, alors, enfin, elle veut pas renier ses origines, et en même temps, elle a choisi son mari. Enfin, voilà,
il y a toujours un entre deux. Ouais. Et le quatrième module, Femme, voix d'émancipation, qui se base sur le roman L'Événement, paru dans les années 2000. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce module ?
Alors là, c'est un module assez sensible, puisque du coup, on parle de la question de l'avortement et du droit à l'avortement. Donc Annie Ernaux, elle a subi du coup un avortement clandestin, puisqu'à l'époque, donc elle était jeune, c'était interdit par la loi, donc elle a mis sa vie en danger. Elle a écrit plusieurs choses dessus. En fait, L'Événement, c'est vraiment sur cette question-là. Mais elle avait déjà écrit un premier roman où elle cherchait, enfin, c'est pas un roman d'ailleurs, du coup, un lapsus. Elle avait déjà écrit quelque chose, un texte sur cette attente, en fait, de pouvoir ou non avorter. Et donc là, c'est axé vraiment sur le module. Il est axé sur l'évolution de la liberté sexuelle et de l'engagement par l'écriture sur ces sujets-là. On voit notamment l'évolution des unes de couverture des magazines féminins sur en fait les gros titres, quoi. Ça donne une idée un petit peu de ce qu'était la tendance selon les années, ce qui est les injonctions faites aux femmes, voilà. Et puis on a aussi un extrait d'une œuvre de Mylène Besson, qui est une œuvre, un dessin au fusain qui fait 16 mètres de long, et ce qui s'appelle Les femmes qui rient. Donc c'est 30 femmes nues qui rient. Et on peut diffuser un petit extrait aussi quand les visiteurs viennent à l'exposition, un extrait du making-of de cette œuvre-là. Cette œuvre, elle a donné lieu à la production d'un livre, et Annie Ernaux a écrit pour chaque femme un texte. Ce qu'elle dit, Annie Ernaux, là-dessus, c'est qu'elle disait, mais en fait, à l'époque, on ne savait pas si c'était mal ou si c'était bien, on ne se posait pas la question, on jugeait par rapport à la loi, et on ne jugeait pas la loi, malgré le fait que ça mettait la vie des femmes en danger, en fait. Donc, celui-ci, il est assez sensible comme module.
Mmh. Oui, justement, il y a un dispositif aussi de manipulation de ces objets.
Voilà, en fait, on peut essayer de deviner derrière un petit rideau opaque quels objets on touche. Alors, ça va être des objets liés à la contraception ou à l'avortement. Voilà, en fait, chaque module va avoir vraiment quelque chose d'interactif. Et on a aussi, sur chaque module, des chaises qui sont installées, sur lesquelles on peut s'asseoir, et qui vont donner une indication sur le thème global du module. Et donc celui-ci, bien sûr, ce sont des chaises d'hôpitaux qui sont installées. La chaise, elle est vraiment l'objet choisi par les étudiantes là, qui ont conçu l'exposition, pour le coup, parce qu'elles considéraient que c'était vraiment un objet qui indique quelque chose de là où on se trouve, en fonction du matériau utilisé, de la qualité de la conception. On va assez vite voir si on est effectivement soit à l'hôpital, soit dans un petit café, comme le tenaient ses parents, ou plutôt dans une maison bourgeoise, en fait. Ça donne des bons indicateurs. Donc voilà, c'est un élément qui fait partie de la scénographie, mais qui est inclus dans l'exposition.
Et il y a aussi des tiroirs intimes.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est ?
Absolument, on voit effectivement sur chaque module des tiroirs intimes, alors dans lesquels on peut... Alors pour voir le contenu, il faut se pencher. Donc dedans, il y a des photographies qui ont été prêtées par Annie Ernaux. Ce sont des photographies inédites d'elle, de sa famille. Et le choix du tiroir, c'est vraiment symbolique aussi par rapport à elle qui se livre dans ses récits. De manière tout à fait transparente, de manière très claire, de manière très brute, tout en partageant finalement quelque chose d'universel qui est vécu par énormément de gens au final. Donc il y a le côté où on va voir un peu ce qui se passe chez elle, Et en sachant ce qui est caché dans le tiroir, finalement, fait quand même partie de la vie publique, et fait quand même partie de la vie politique. Enfin, l'intime est quand même politique, mine de rien.
Le dernier module, Les années partagées, qui est basé sur le roman Les années, qui est paru en 2008. De quoi il parle ce module et qu'est-ce qu'on peut y trouver aussi?
Alors dans celui-ci, on apporte un peu plus de légèreté par rapport au précédent. Donc dans le module Les années partagées, on va avoir la possibilité de découvrir toutes les inspirations d'Annie Ernaux au niveau littéraire et musical. Donc encore une fois, c'est un mélange d'œuvres populaires et d'œuvres dites classiques qui l'ont façonné et qui lui ont permis d'être qui elle est aujourd'hui. Donc on peut écouter des disques qu'elle avait chez ses parents, on peut voir et feuilleter, voir emprunter les livres qu'elle a lus et qui l'ont marqué, et puis voir aussi qui elle a inspiré.
Donc pour les modules, c'était le dernier. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans cette exposition. Et à quel point aujourd'hui c'est encore nécessaire de parler de ces sujets?
Alors comme on disait au début, en fait, nous on a ressenti vraiment la nécessité de présenter cette exposition et a priori les étudiants qui l'ont conçue aussi au moment de la conception. Parce que on le voit aussi dans les autres pays, on est encore en France, on est encore un peu préservé, mais c'est vrai qu'on voit au niveau mondial, les droits des femmes sont pas acquis du tout, quoi. Et quand on voit aux États-Unis qu'il y avait encore récemment des femmes qui, en faisant des fausses couches, étaient jugées comme peut-être en train de faire une IVG et du coup on les laissait mourir sur les parkings, on se dit là ça va pas du tout. Il faut vraiment qu'on continue à en parler, qu'on puisse sensibiliser les gens. Et pas que les jeunes, en fait, tout le monde, parce que, enfin, oui, nous, on a un public étudiant, mais pas que, en fait, l'exposition, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Et en fait, plus on va en parler, plus on va voir qu'il y a des associations qui sont aussi disposées à accompagner les personnes. Donc, on a par exemple Nina et Simone sur la Citadelle. C'est aussi une association qui va se déplacer, qui a une camionnette et qui se déplace dans les villes, dans les quartiers. Qui est là aussi pour discuter sans tabou de tous les sujets liés à la contraception, à la sexualité, aux violences. Et en fait, quand on fait une expo comme ça, on met en lumière aussi ces associations, quoi. On permet aux gens de se retrouver, de discuter, d'échanger et de créer du lien. Et en fait, c'est positif, c'est ça. Quelque part, ça met un peu du baume au cœur, même si c'est pas juste le seul objectif, mais c'est vraiment de pouvoir se faire rencontrer les gens, faire connaître ces structures et les valoriser, en fait.
Et là, on finit sur quelque chose d'un tout petit peu plus léger. Qu'est-ce qui sera organisé à l'issue de cette exposition? Qu'est-ce qui a déjà été organisé?
Alors, on a eu la chance d'avoir des artistes qui sont venus proposer des ateliers artistiques. Donc, on a Rose Digne-Court, par exemple, qui est venue proposer un atelier modeler ses émotions avec la terre. Donc, c'est des ateliers qui permettent à la fois de réaliser une création, mais aussi d'amener la discussion, en fait. C'est un cadre sécurisé où tout le monde peut s'exprimer librement, de manière bienveillante. Enfin, c'est accueilli de manière bienveillante. On a aussi fait un atelier avec Anne-Claire Giraudet de l'aquarelle sur le thème portrait et colère. Il y a donc Iramia qui avait proposé aussi de faire des pancartes affiche ta colère. En fait, c'est vraiment toujours de l'expression, de l'expression artistique, mais autour de ressenti et de faits réels, quoi. Et puis on a aussi Karine Vernon Vincenzi qui est venue faire une installation. Alors ça s'appelle Corseté, son installation. Et en fait, les personnes qui participent peuvent broder des mots, des phrases de leur ressenti par rapport à leur corps, en fait. Donc les phrases qui sont brodées sur des rubans sont ensuite attachées à un corset suspendu. C'est une façon de se réapproprier son corps, de partager son expérience, d'exorciser parfois des violences qui nous ont été faites. On a aussi dans le même registre Brode ta broche qui avec Gaëlle Martin qui a proposé donc du coup de faire des broches où le dessin brodé en fait est une poitrine. C'est pas quelque chose de sexuel, justement, parce qu'on a eu, des commentaires sur les réseaux en mode « Ouais, c'est sexe, pourquoi les... ?» Bon, bref, c'était vraiment déplacé. En fait, justement, l'idée, c'est de faire comprendre et de dire, et apparemment, c'est pas encore acquis, que la poitrine féminine n'est pas un objet forcément sexuel, quoi. C'est une partie du corps, comme les hommes ont des tétons, les femmes ont des tétons, voilà. Et c'est pas parce que le corps est dénudé qu'il est forcément sexuel, quoi. Tout ce que les femmes peuvent subir comme réflexion, comme intention venant de l'extérieur sur leur corps et qui du coup les formatent ou les contraignent à faire des choix qui ne sont pas les leurs au final, sont dénoncées dans ces ateliers en fait. C'est vraiment l'objectif, c'est de détabouiser certaines choses, de libérer la parole et de créer des échanges et peut-être faire évoluer les choses quoi, dans le bon sens.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. L'exposition, elle est disponible jusqu'au...
Alors, elle est visible jusqu'au 19 février et on peut la voir du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30. La prochaine visite que je fais, là, c'est mardi, là, aujourd'hui, à 19h.
Et c'est sur inscription ou c'est...
C'est sur inscription, mais si les gens ne sont pas inscrits, je leur fais la visite quand même.
Très bien. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Feel something.
Toujours sur Radio Campus Amiens, c'était Feel Something Great de Palais Royal, une suggestion musicale de Sonia. Pour cette deuxième partie d'Info Club Sandwich, place à la chronique. Et comme je le disais, on va parler du NOPENS. Car oui, chaque année, au mois de janvier, des milliers de personnes à travers le monde participent à l'International NOPENS Day. Le principe est d'une simplicité presque élégante. On prend les transports en commun, on garde son chapeau, son manteau, son pull, ses chaussures, parfois même son écharpe, mais on oublie le pantalon. Le jean, le fut, le pantalon de costume, le jogging, le survêtement, le pantacourt, le pantalon taille haute, taille basse, taille tout court, bref, le bas est aux abonnés absents. L'idée naît en 2002 à New York, lancée par un collectif d'artistes de rue, Improv Everywhere. À l'origine, c'est une blague, une performance absurde, une expérience sociale où l'on teste ce qu'il se passe quand on enlève ce vêtement, pourtant fondamental dans la hiérarchie textile occidentale. Le pantalon, ce pilier discret de la respectabilité. Et très vite, eh bien, ça déborde. Londres, Berlin, Prague, Varsovie, Jérusalem, partout, des gens montent dans le métro sans froc, sans falzard. Les photos font le tour du monde, des quais bondés, des escalators remplis de gens en collant, en slip, en boxer, en culotte, parfois en short de secours. Et ce moment délicieux où plus personne ne sait très bien regarder. Ce qui est fascinant, ce n'est pas tant l'absence de pantalon que le comportement. Les participants, eux, ne rient pas. Ils lisent le journal, ils scrollent sur leur téléphone, ils soupirent parce que le métro est en retard. Comme si être sans futal était finalement moins gênant que de faire remarquer qu'on l'est. Officiellement, l'événement n'a aucun message politique. Mais officieusement, difficile de ne pas y voir autre chose. Une manière de rappeler que nos règles sociales tiennent parfois à un bouton, une fermeture éclair ou une ceinture oubliée. Qu'il suffit d'un pantalon en moins, d'un jean laissé sur une chaise pour fissurer la normalité. L'international No Pants Day, c'est un miroir un peu cruel et très drôle. Il nous montre à quel point on est attaché à nos pantalons, nos bas, nos fûts, nos toiles, nos slims, nos larges, nos ajustés. Et à quel point on est fasciné quand quelqu'un décide de s'en passer, calmement, poliment, sans faire de scandale. Alors non, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas la chute du pantalon social, quoique, mais c'est peut-être une respiration, un rappel que dans un monde très normé, très sérieux, très tendu, on peut encore perdre son pantalon sans perdre la face. Et si un jour dans le métro vous croisez quelqu'un parfaitement détendu, en manteau, en chaussures, mais sans pantalon, ne paniquez pas, ce n'est pas un bug dans la matrice, c'est juste parce que nous sommes le 13 janvier. Et c'est sur ces belles paroles, cet hymne No Pants, que se termine cette émission. Info Club Sandwich est disponible en réécoute sur radiocampusamiens.fr. On vous dit à demain pour un nouvel épisode de votre quotidienne d'actu préférée. Et quoi de mieux que Pyramide de Fabrizio Camarata pour se dire à très vite sur le 87.7 FM. Another stone will be carved again and again and again. That's what the spirit is. Stable like pyramids. That's how the theorem is. And what defines me? It was built inside me, piece by piece, for my peace of mind. But how do we get down? How do we get down and watch them? And in one piece, she's in peace. Another star has been found to be a light that should be read from the start, but I was unsteady and lost in my own mind. I've been a slave, I've been a king, but I've been the architect indeed. Another stone will be carved and lifted up. Another stone will be carved and lifted up.